sera page 47 dans le Patach Eliyahu. Et donc on étudie le troisième Alléluia. Voilà, si vous pouvez suivre dans les mots, c'est mieux. Et c'est Leilou Nishmat, Frecha Bat Miriam. Shayam Petit Dat, Nafshara. Donc on a déjà fait le Ashrei, on a déjà fait le premier Alléluia, et maintenant on est au deuxième Alléluia. Donc je vous rappelle brièvement de quoi on parle, où on en est. Là, ce qu'on a expliqué depuis le début du Ashrei, c'est qu'en fait, la beauté des psouké des Zimra, la beauté des psaumes du roi David à partir de Ashrei, c'est que David Ameler va commencer à analyser la nature qui est autour de lui, il va aller progressivement en crescendo. C'est-à-dire que petit à petit, il va élargir le cercle. En premier temps, dans le Ashrei, il a parlé de sa propre personne et de sa propre famille, des gens qui l'entourent. C'est-à-dire qu'il parle du cercle restreint, le cercle de la famille, le cercle des amis. Dans le premier Alléluia qu'on a eu juste après, qui commence donc par Alléluia, Halleli Nafshi et Hashem, David Ameler a commencé à analyser les hommes, toujours, mais un cercle qui est moins restreint, ça veut dire qu'il a commencé à analyser les hommes qu'il ne connaît pas forcément. Et à chaque fois, au travers de son analyse, il essaye de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu et comment on peut amener dans cet endroit aussi Akadosh Baruch Hu. Comment on peut retrouver Akadosh Baruch Hu là-bas. Puisque rappelez-vous que le psouké des Imra qu'on lit au début de la Tfila, c'est une préparation, tout ça c'est une préparation au schéma, pour nous montrer comment Akadosh Baruch Hu est présent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, dans toutes nos vies. Donc dans le Ashrei, il a expliqué comment dans sa propre famille retrouver Dieu. Dans le premier Alléluia, il a expliqué comment il retrouvait Akadosh Baruch Hu au travers des gens qu'il ne connaissait pas, mais au travers des hommes. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Et on est en plein milieu du deuxième Alléluia, donc dans la page 47, dans laquelle là le roi David va commencer à analyser non seulement les hommes, mais il va analyser également les animaux, donc la nature qui l'entoure. Et au travers de la nature, il va regarder Akadosh Baruch Hu. Alors comme je disais lundi soir, je dis aujourd'hui, quand on entend quelqu'un parler de la nature, on se demande est-ce qu'il n'est pas écolo ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'il va nous sortir. Mais alors qu'en vérité, derrière la nature se cachent des trésors extraordinaires, de secrets extraordinaires. Et on sait que le Baal Shem Tov, par exemple, quand il voulait se sentir plus proche d'Akadosh Baruch Hu, l'histoire raconte que le Baal Shem Tov allait dans la nature, il s'isolait dans la nature, et ça lui permettait de ressentir Akadosh Baruch Hu de manière plus forte. Parce que des fois, on a du mal à voir Akadosh Baruch Hu avec les hommes. Donc des fois, le fait de voir la nature, ça va nous aider. Et c'est ce que le roi David a fait dans ce Alléluia. Alors la première partie du Alléluia, donc je répète brièvement, la première partie du Alléluia, il a analysé principalement les saisons. Donc il a analysé les nuages, il a analysé les montagnes, etc. Et il a expliqué comment en regardant les nuages, les montagnes, etc., ça lui rappelait la force d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'il a rappelé, il a rappelé les animaux. Qu'en regardant les animaux, et en regardant comment les animaux, il y avait des animaux que, on avait expliqué la semaine dernière, que leurs parents les abandonnent au plus jeune âge. Et il se posait la question, il dit, mais comment ces animaux vivent? Et donc, ça veut dire qu'il les a épiés, c'est-à-dire qu'il les a regardés. Et quand il a vu comment Akadosh Baruch Hu s'arrangeait pour que, il y ait un insecte qui vient pour qu'il mange et que, à chaque fois, chaque animal, personne n'est mort de faim. Il s'est dit, il a réfléchi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais attends, si Akadosh Baruch Hu s'occupe comme ça des animaux, et qu'un animal qui normalement n'a pas de quoi manger, Dieu lui amène à manger, à plus forte raison qu'il s'occupe de nous aussi. Vous voyez qu'il analyse la nature pour retrouver des messages au travers de la nature. Alors, une autre chose qu'il a compris aussi de la nature, et on s'est arrêté à l'obigvourat à Susirpad. Donc on est vers le milieu de la page 47, la ligne qui commence l'Achma. Il est arrivé à la conclusion que l'obigvourat à Susirpad, que Akadosh Baruch Hu, finalement, ce qu'il recherche, c'est pas la puissance du cheval. Alors c'est quoi, le cheval est connu, en tout cas à l'époque, était connu pour savoir courir. Il courait très rapidement. C'est pas l'animal qui court le plus vite, mais c'est un animal qui a beaucoup d'endurance. Il y a des animaux qui courent beaucoup plus vite que lui, mais qui n'ont pas d'endurance. Au bout de 2-3 minutes, ils sont essoufflés. Le cheval, il peut courir et rester longtemps en train de courir. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'on utilisait les chevaux à cette époque-là, c'était pour aller en guerre. Donc les chevaux étaient synonymes de force. Comme dans les voitures, aujourd'hui, on dit les chevaux. C'était synonyme de force. Très bien. Alors il dit, j'ai compris que le Bigvorat a su Sirpat. Akadosh Baruch Hu ne recherche pas la force du cheval. Alors quand il parle du cheval, il parle d'abord du cheval physique, mais il parle également du message du cheval. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser le cheval pour courir, mais que finalement, eux, ils ont rien, ils sont vides. Ils ont des très bons chevaux, ils ont des très beaux outils, des outils qui avancent très très vite, mais eux-mêmes, Hashem Ishmor, ils sont vides. Donc il dit, je suis arrivé à la conclusion que le Bigvorat a su Sirpat, Akadosh Baruch Hu ne recherche pas la force, la puissance du cheval. L'aube, on va expliquer qu'est-ce qu'attend Kadosh Baruch Hu. L'aube est choquée à Ish Irtse. Ainsi que Kadosh Baruch Hu ne veut pas des cuisses de l'homme. Alors les cuisses, encore une fois, c'est quoi? C'est synonyme de force. Quelqu'un qui a des muscles. Aujourd'hui, on aurait appelé ça les muscles. Et les muscles, comme ça. Je suis arrivé à la conclusion que tout ça, c'est un outil. Et que ce qui compte pour Akadosh Baruch Hu, c'est Rotse Hashem et Yireav. Ce qui compte pour Akadosh Baruch Hu, c'est qui c'est qui le craint. C'est-à-dire, on peut avoir une personne qui est très forte, mais qui ne craint pas Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne veut pas de lui. D'un autre côté, tu peux avoir une personne qui est chétif, qui est tout petit comme ça, qui n'a pas de cheval, qui n'a pas de muscles, qui n'a pas... C'est-à-dire, qui est socialement, il vaut rien. Et pourtant, Rotse Hashem et Yireav, Akadosh Baruch Hu, c'est des gens comme ça qu'il veut. Il veut ceux qui le craignent, et am yachalim le chasdo, et plus fort que ça. Ça ne veut pas dire que Dieu nous demande d'être faible. Shalom. Dieu nous attend de nous que etam yachalim le chazdo, qu'on soit toujours en train d'espérer sa bonté. Et comme explique le commentaire, ça veut dire que même si une personne qui est fort et qui a les moyens et qui a les muscles, etc., c'est-à-dire qui a les outils qu'il faut pour être fort, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est que etam yachalim le chazdo, que son espoir, c'est pas ses muscles, son espoir, c'est pas son argent, son espoir, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, ah, maintenant on discute. Shabechi Yerushalayim et Hashem. Voilà, on parlait tout à l'heure de Yerushalayim. D'accord? Alors, Shabechi Yerushalayim et Hashem. Jérusalem va chanter à Kadosh Baruch Hu. Quand elle va chanter à Kadosh Baruch Hu, comme on expliquera après, elle va chanter à Kadosh Baruch Hu lorsque ses enfants se rassembleront. Parce que comme on a expliqué la semaine dernière, une grande partie de l'analyse du roi David ici ne concerne pas notre monde, mais concerne la période de Mashiach. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent ici. Par exemple, est-ce que nous, on voit clairement aujourd'hui de nos yeux qu'Akadosh Baruch Hu accorder de l'importance à ceux qui le craignent et pas à ceux qui ont de l'argent? Des fois, le message qu'on perçoit dans le monde, c'est un message contraire. Et plusieurs choses qu'on avait dit, que le roi David ici ne parle pas forcément de ce qui se passe aujourd'hui, mais il parle de le monde tel qu'il se conduira lorsque Machia viendra, c'est-à-dire le monde tel qu'il se conduira de manière ultime. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shabechi Yerushalayim et Hashem, ce jour-là, lorsque Mashiach viendra et que ses enfants, les enfants de Dieu, se rassembleront à Yerushalayim, Jérusalem se mettra à chanter à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça c'est Shlomo HaMelech, c'est le fils du roi David qui expliquait. Il dit que lorsque Mashiach viendra, les murs se mettront à parler. Alors, ça va être en bien et en mal. Je vais commencer par le mal. Le mal, ça veut dire que les murs vont commencer à, comme le rabbi précédemment, il répétait toujours, il disait, un mur... Quand on passe le mur, il va se plaindre, il va dire comment ça se fait que tu es passé à côté de moi et tu n'as pas dit un Dvar Torah et tu as dit des bêtises. Parce que les murs s'imprègnent. Les murs s'imprègnent. Nous, on ne voit pas. Moi, je crois que j'ai parlé. On dit bien en français parler devant un mur. D'accord? On croit que parler devant un mur, ça veut dire personne n'a écouté. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est faux. D'accord? Les murs ont des oreilles, ouais, c'est ce qu'il faut dire. Non, mais en français, on dit bien parler devant un mur. Ça veut dire quelqu'un qui ne m'écoute pas, quoi.
C'est ce qu'on fait à Jérusalem, hein. On parle devant un mur.
Et ben justement, c'est écrit, le rabbi précédent l'a expliqué comme ça dans le passage qui dit Even Nikir Tizrak, qu'une pierre du mur criera. Elle va crier, c'est-à-dire quoi? Depuis quand une pierre elle parle et pourquoi elle crie? C'est qu'en vérité, elle va pleurer. C'est une façon de parler, ça veut dire comment t'es passé à côté de moi. Il y a un message qu'on va percevoir au travers de la pierre. Et comment t'es passé à côté de moi et tu m'as pas dit un de Bartora à côté. Mais d'un autre côté, ce qu'on comprend aussi, c'est que quand on va au Hachem, on a une synagogue, qu'on a dit un de Bartora, les murs vont être contents. On va dire, ah, passé à côté, ici, on a dit un de Bartora. Et donc c'est ça, Shabechi Yerushalayim et Hashem. Shabechi Yerushalayim et Hashem, ça veut dire que Jérusalem va se mettre à chanter à Kadosh Baruch Hu, va être contente, et mais les enfants sont revenus. Haleli Helokair Tzion. Donc Tzion, c'est un second nom pour Jérusalem. Mais ceci dit, sachez que Tzion, c'est aussi un nom pour ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël, Ir David. Je sais pas si vous avez déjà été à Ir David, la cité de David. Ça veut dire que dans Jérusalem, vous avez la cité de David, Ir David ça s'appelle. D'ailleurs, ça peut se visiter, enfin pas tout, mais on peut visiter une grande partie. Vous avez déjà été à Ir David? Très beau. Enfin, ils disent que le roi David est enterré là-bas, ça je sais pas si c'est vrai ou faux. Chez nous, on sait pas trop.
C'est pas l'endroit exact.
Voilà, c'est pas trop exactement.
C'est dans Migdal David.
Voilà. Mais en tout cas, on sait que c'est vers là-bas. Parce qu'il y a Ir David, il y a Migdal David, il y a la tour de David aussi là-bas. C'est très beau. D'accord? Et donc, Tzion, c'est le surnom de la ville de David. Ça veut dire que c'est le Jérusalem de Jérusalem. Comme je disais tout à l'heure à M. Bismuth, je dis que aujourd'hui, ce qu'on appelle nous Jérusalem, la majorité de Jérusalem, c'est en vérité la banlieue de Jérusalem. Le vrai Jérusalem à la base, c'est le vieux Jérusalem. D'accord? Ira Attika. Dans Ira Atika, vous avez Ir David. Ir David, c'est la ville, c'est ça, c'est vraiment une section de Jérusalem. Et c'est ça de Sion. Et Sion va se mettre à chanter à Kadosh Baruch, parce que quand maintenant on visite Ir David, la ville de David, alors ça c'est intéressant, parce que qui c'est qui a écrit ça? David Ameler. Au moment où il a écrit ça, bah, la ville de David était vivante. Il y avait de l'activité là-bas. D'accord? Et pourtant, la cité de David était vivante. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elle finira par chanter à Kadosh Baruch parce qu'elle reprendra son activité. Ça veut dire qu'il prédit pour notre génération qu'il y aura une longue période de 2000 ans dans laquelle cette cité de David sera endormie comme aujourd'hui, quoi. C'est un musée. Il n'y a rien. D'accord? Je crois qu'il n'y a même pas de, je crois qu'il y a même pas d'Ishiva, il n'y a rien là-bas. C'est vide. Non, c'est pas dans Ir David, l'Ishiva. Pour Rachel, c'est pas dans Ir David. C'est dans la vieille ville. Dans Ir David, je crois que c'est purement touristique aujourd'hui. C'est touristique. Vous imaginez? Un endroit qui était tellement... On raconte que là-bas, dans Ir David, il y avait des Talmidei Chachamim qui siégeaient, le roi David discutait avec eux tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu?
Il y a même des trucs crétins.
Et ça, on nous dit qu'elle va chanter à Kadosh Baruch Hu de retour lorsque Machar viendra. Et lorsque cette ville, cette cité, va reprendre son activité. De là, c'est aujourd'hui, c'est un musée, chez Mishmor.
Donc, c'est pas cher, le mètre carré.
Kichizak berichesh araïr berach banaïr bekirber. Donc toujours en parlant de l'époque de Mashiach, Tichizak Berichesh Araïch, Akadosh Baruch Hu a renforcé les gonds de tes portes. Alors de quelles portes on parle ici? De quelles portes on parle ici? On parle des portes de la Torah. Comme ça Rashi explique. On parle ici des portes de la Torah. Et ça veut dire quoi renforcer les gonds de la Torah? Ça veut dire que malheureusement ce qui se passe, c'est que dans certaines générations, les seules personnes qui étudient, c'est les vieux. Et ça veut dire quoi renforcer les gonds? C'est quand on amène des jeunes par derrière. Ça renforce les gonds. Parce qu'avec le temps, un vieux, c'est petit, le gond, il est en train de tomber. C'est quoi renforcer les gonds? C'est quand on amène des nouvelles forces. Et ça, c'est ça, ça encore une fois, c'est une des prophéties de Mashiach, c'est que quand on arrivera vers Mashiach, plus, c'est Isaïe qui l'a répété et expliqué par la suite, plus on avancera vers Mashiach, et plus c'est les jeunes qui renforceront les gonds de la Torah. C'est la jeunesse qui va reprendre, qui fera honte, entre guillemets, aux adultes. Mais honte dans le bon sens. Ça veut dire qu'ils vont les dépasser. Verar Banair Bekirver. Donc vous voyez, on parle des enfants. C'est les enfants de Sion, les enfants d'Israël, qui vont être bénis Bekirver dans Jérusalem. Assam Gevuler Shalom. La plus grande bracha qu'on pourra avoir quand Mashiach viendra, c'est que nos frontières seront synonymes de paix. Parce que quand aujourd'hui on entend le mot frontière, regardez comment c'est précis, c'est le roi David. Aujourd'hui, quand on entend le mot frontière, ça veut dire quoi? La frontière, forcément, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est très dangereux et que c'est là-bas, c'est de là-bas que la guerre commence. Imaginez-vous si maintenant la frontière voudrait dire autre chose. La frontière, c'est l'endroit où commence la paix. Que lorsque quelqu'un vient me voir, c'est d'abord là-bas que je vais le rencontrer. Assam, Gevuler, celui qui va transformer, il va mettre Gevuler, ta frontière, Shalom, en synonyme de paix. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la frontière, c'est...
C'est sûr, c'est shalom pour la paix ou shalom pour le fait qu'elle est inviolable.
Shalom, c'est la paix, justement, pour dire qu'au contraire, pour dire que ça sera synonyme de paix. Bon. Ça veut dire que celui qui vient me voir, déjà, il arrive à la frontière, il dit « Ah, je suis content de venir vous voir ». C'est du style la porte de la maison, tu vois. Je t'accueille à la porte de ma maison.
Alors, synonyme de paix, ça veut dire les droits de douane seront très chers. Synonyme de paix. Oui.
Alors, Relève Ritim Yesbier. Une autre bracha aussi qu'on nous raconte quand Mashiach viendra, c'est que Relève Ritim Yesbier, Akadosh Baruch Hu va te rassasier. Alors, Relève en hébreu, ça veut dire la graisse. Ritim, c'est le blé. C'est quoi la graisse de blé?
La graisse de blé.
Alors, il faut savoir que Relève en hébreu, ça veut pas dire uniquement la graisse, ça veut dire le meilleur. D'accord, le meilleur.
La moelle.
Donc, c'est pas la
moelle. Non. Donc c'est pas la graisse. Alors pourquoi on appelle ça, pourquoi le meilleur on l'appelle la graisse? Puisque à l'époque, même aujourd'hui encore, quelque chose qui est sec n'est pas bon. Quelque chose qui est gras, c'est quelque chose de qualité. Du relève. Et donc quand on voulait dire, comme je dis, le zeste, comme etc. Quand je veux dire quelque chose de qui est bon, je dis le relève. Et donc à Kadosh Baruch Hu, il va nous rassasier, pas avec du blé de mauvaise qualité, avec la crème du blé. Voilà, comme je dis en français, la crème. La crème. La crème, ça veut pas dire qu'il y a de la crème.
Best of.
D'accord, c'est le best, le meilleur. Relève, fritim, yes, bière. On va bien manger. Et voilà, on continue. Donc c'est avec ça qu'on sera rassasié. Ok, très bien. Acholéar imrato aretz admehera yarut devaro. Moins vivreur, s'il vous plaît, les portables. Ashelach imrato aret admehera yarut devaro. Akadosh Baruch Hu. Alors encore une fois, autre chose qu'on voit ici, mais ça le roi David, il le parle, il le dit pas au futur, mais il le dit au présent, que Ashelach imrato aret. Dieu envoie sa parole vers la terre. Et c'est comme un petit peu un satellite comme ça qui envoie. Il envoie une onde vers la terre. Admehera yarut devaro et sa parole arrive très rapidement. Alors, écoutez bien, ils expliquent le Mefarchim. Ils disent comme ça. Ils disent qu'il y a une différence lorsque un prophète nous transmet un message positif ou lorsqu'un prophète nous transmet un message négatif. Vous savez que des prophètes, on a eu des prophètes qui nous ont annoncé des messages positifs, comme Akadosh Baruch Hu va vous donner ci, va vous donner ça. Et on a eu des prophètes qui nous ont annoncé des messages négatifs. Dieu n'est pas content de vous, donc voilà ce qui arrivera. D'accord.
Négatif.
Alors, écoutez bien ce qu'il explique ici, un très joli commentaire du Yatsu. Il dit comme ça. Il dit, lorsque Kadosh Baruch Hu envoie une prophétie négative, donc il envoie un message par un prophète. D'abord, le message, avant d'arriver chez le prophète, ça prend du temps, il y a de la bureaucratie. Ça prend du temps avant d'arriver, etc. Une fois que le message arrive chez lui, Kadosh Baruch Hu fait en sorte que le message prend du temps pour être transmis. Parce que c'est un mauvais message. Tout prend du temps, tout d'un coup, ça prend du temps. Après, une fois qu'ils ont été prévenus, Kadosh Baruch Hu fait que même pour... Si Dieu préserve, on doit mettre en exécution. Ça prend du temps. Tout prend du temps. Ça veut dire que ça va, les choses ne vont pas vite.
L'administration.
Par contre, c'est l'administration. D'accord? Mais pour le mal. Ça, c'est pour le mal. Ça veut dire, dès qu'il y a la moindre, comment ils appellent ça, en justice?
Sable,
en justice, quand on fait, pas quand on fait appel. La moindre opposition, la moindre faille, on recommence. Et ça, mamache, quand on lit la Bible, Nard, on le voit clairement. Dans plusieurs histoires. Que, il suffisait qu'il y ait un café de Chouva, Kadosh Baruch Hu, bon, alors on va revoir, alors voilà ce qu'on va faire, etc. Alors que de l'autre côté, quand à Kadosh Baruch Hu, il envoie une bonne parole, il dit, je vais vous donner ici, je vais vous donner ça, tout de suite, c'est accompli. Là, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de, tout de suite. Et plus que ça, on a eu des exemples dans le Nard, que des fois, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je suis content de vous parce que vous avez fait ça, donc je vais vous donner ça. Et entre temps, il y a des gens qui ont changé leur comportement. Je lui dis, bon, enfin, j'ai rien vu, je donne. Il donne avant qu'on ait le temps de retourner. Ça, c'est le Admehera Yarut Devaro. Admehera Yarut Devaro, ça veut dire que la parole de Kadosh Baruch Hu, le Davar, c'est une parole positive. Il court. D'accord? Asholeach Imrato, donc c'est la différence entre Imra et Davar. Pour dire la parole, il emploie le terme Imra et Davar. Imra, c'est une parole qui est peut-être un peu négative, qui est dure. D'accord? Alors que Yarut Devaro, c'est une parole qui peut nous paraître négative, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, au contraire, il la transforme en bien. Tu sais qu'est-ce que tu as? C'est un joli commentaire. Oui. C'est Dvarim Kachim qui guinim. D'accord, c'est vrai. C'est pas forcément négatif, le Vaidaber. C'est une manière de parler. Est-ce que c'est, au contraire, le Davar ici, on dit que quand on parle aux hommes, on doit parler de manière rapide, de manière, pas sec, mais de manière directe. Et justement, le Davar ici, c'est un bon signe, le fait que c'est direct, et qu'on passe pas par mille chemins. C'est le même message. On continue.
Véridique. Daber.
Oui.
Les morts.
Quand on dit
par là en 10 ans.
Quand on dit les morts en hébreu, ça veut dire qu'on va passer par des chemins bureaucratiques, etc. D'accord.
Comme
c'est écrit que lorsqu'on parle à une femme, on lui parle jamais de manière directe. Toujours on passe par plusieurs chemins, on prépare, d'accord? Alors qu'un homme, on lui parle direct.
Parce qu'elle a du mal à comprendre.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle est très sensible et qu'il faut. Il a une sensibilité qui est très forte. Non, mais c'est vrai. Il faut lui prendre le temps de s'habituer à ce qu'on va lui dire. Alors, donc on est toujours dans l'analyse du roi David, en ce qui concerne, là c'est une parenthèse qu'on a fait là. On est toujours dans l'analyse du roi David, comment il analyse la nature qui l'entoure. D'accord? Et donc on continue encore 2-3 minutes, il dit comme ça, il dit « Anoten Shelek Katsamer ». D'accord, donc il a analysé ce qu'il y a autour de lui. Il a analysé les animaux, il a analysé, on a dit tout à l'heure, les nuages, d'accord? Il a analysé aussi le fait que lorsque Kadosh Baruch Hu décide de nous donner quelque chose, il nous le donne rapidement. Maintenant, il va analyser également d'autres aspects de la nature, des saisons. Il dit comme ça, « Anoten Sheleg Ketsamer ». À Kadosh Baruch Hu, il nous donne de la neige, Ketsamer, comme la laine. Alors, on sait que la neige est encore plus blanche que la laine. La neige, quand c'est blanc, c'est encore plus blanc que la neige.
Ah oui.
Que la laine. D'accord? Que la laine. Et pourtant, le roi David dit, le plus blanc que j'ai pu imaginer, c'est quoi? C'est la laine. Et avec ça, la neige est encore plus blanc que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Le roi David s'est rendu compte comment la neige, comment la terre avait besoin de la neige. Et que le fait que la neige blanche est synonyme de pureté. Et que le fait que la terre était recouverte de neige, il s'est rendu compte comment la terre, après les fruits que la terre donnait, s'il y avait la neige ou pas la neige, c'était pas les mêmes fruits. Donc encore une fois, il dit, mais attends, comment Kadosh Baruch Hu s'occupe de la nature, après on va dire qu'il s'occupe pas de nous. Là, des petits détails comme ça. Que moi je vois la différence s'il y avait la neige ou il n'y avait pas la neige. À plus forte raison que Kadosh Baruch Hu s'occupe de moi. De la même manière, une chose qui nous paraît insignifiante, comme le givre. Pour nous, le givre, c'est quoi? C'est le pare-brise, il faut le gratter, c'est tout. D'accord? Le givre. Il a analysé le givre. À quoi il sert le givre? D'accord? Il dit, Anoten, donc, Kefor, Kefer, Yefazer, Akadosh Baruch Hu va répandre le givre comme de la cendre. C'est quoi la cendre? La cendre, c'est quelque chose qui est insignifiant. C'est Akadosh Baruch Hu, il met du givre tellement partout que pour nous, c'est, ça ne nous intéresse pas, c'est rien du tout, c'est des bêtises. Alors que quand on sait les bienfaits du givre.
C'est une rosée.
D'accord? C'est une rosée? Exactement. C'est une rosée. Même dans le désert, il y a ça. Et si Dieu préserve, il n'y avait pas ce givre, c'est très grave, tout serait desséché. Mais seulement, c'est quoi le problème? C'est pas un problème. C'est que Kadosh Baruch Hu nous en donne tellement, il nous yéphaser, c'est-à-dire il le répand comme de la cendre, d'accord? On dit, ouais, c'est rien du tout ça. Alors qu'en vérité, c'est une bracha extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien après la cendre. C'est ce qu'il dit, justement. Ça veut dire quoi la cendre? Ça veut dire chez Enochashu, c'est-à-dire que c'est pas important. Et nous, on croit pareil que le givre n'est pas important, alors que le givre est très important. Mashlir karo chefitim lifne karato miyamod.
C'est sa mère.
D'accord.
Sa mère et Fazer, c'est son père.
Ah. Il est déjà fini, toi. Alors, on continue. Ten shelek et sa mère, kefor, kefa et Fazer. Mashlir karo chefitim. Il va projeter des glaçons par morceaux. Donc là, on parle de.
Ça fait mal.
C'est quoi les glaçons par morceaux? Là, c'est la grêle.
La grêle.
D'accord. Lifne karato miyamod, qui peut tenir devant le froid d'Akadosh Baruch Hu? Vous voyez comment il analyse la nature, il dit, attends, regarde. Comment des fois, Akadosh Baruch Hu, certaines choses, il peut nous l'envoyer comme une cendre. Tu la sens même pas, tu crois que c'est insignifiant. Et d'un autre côté, quand tu as des flocons de glace, tu dis, ah, là, il y a eu quelque chose. Alors qu'en vérité, c'est le contraire. Alors qu'en vérité, on sait très bien que c'est le contraire. Que le givre donne beaucoup plus que ce qu'on peut donner ces flocons de glace. Et plus que c'est les lifne karato miyamod, devant le froid d'Akadosh Baruch Hu, miyamod, qui sait qui peut tenir? D'accord? Ça veut dire que qui peut tenir devant le froid d'Akadosh Baruch Hu? Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le froid, mais il nous a donné également les vêtements pour nous couvrir. Ishlar tevaro veyamsem, yashev rucho izelu maim. Il dit, maintenant j'ai analysé, qu'Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer du givre, il peut nous envoyer de la neige, il peut nous envoyer tout ça. Mais dès qu'il envoie sa parole, c'est quoi sa parole? C'est-à-dire, il envoie une pluie par derrière, il envoie un coup de soleil par derrière, Veyam Sem, tout fond. Il ne reste plus rien. D'accord? Yashev Rucho Izelu Maim. Il fait souffler le vent. Ça y est, c'est fini. Tout ça, ça fond en eau. Ma guide varav li Yakov Rukav Mishpatav li Yitzra. Alors il dit, à plus forte raison. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet son message, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, au moins, comme il s'occupe de la nature. Lo Asachen Echol Goy. Il dit, Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas de nous comme les autres nations. Il le fait, ça, il ne l'a pas fait à toutes les nations. Ou Mishpati Bayidaum Aleluka. Et les nations ne connaissent pas tout ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous encore plus que la nature, à plus forte raison. Voilà, ça va être ici.
Pour ça qu'on la terre, le blanc